Sans état de droit, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de justice.
La première,
lorsque le politique dit au judiciaire « je ne respecterai pas les décisions qui sont adoptées », c'est très inquiétant.
Les clés.
Parce que ces libertés sont la condition de l'existence d'une démocratie forte.
Arnaud Reussen.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour le deuxième épisode de notre série consacrée à la démocratie. On va s'intéresser dans ce numéro à l'état de droit, considéré par beaucoup comme une condition indispensable à la mise en œuvre de nos démocraties libérales, mais considéré aussi par certains comme une sorte de frein à l'expression de la souveraineté du peuple. Alors c'est quoi l'état de droit? Pourquoi est-il aujourd'hui sous pression? Peut-il tenir le choc? C'est ce que nous allons explorer avec d'abord un petit zapping qui nous emmène aux États-Unis.
La première, les clés.
Predecessors turned this Department of Justice into the Department of Injustice. This vicious persecution is a travesty of justice.
It's very, very clear that this is an activist judge.
We have very bad judges, and what do you do when you have a rogue judge?
Pas besoin de faire de longues recherches pour trouver dans la bouche de Donald Trump ou de la porte-parole de la Maison-Blanche des attaques très virulentes vis-à-vis de la justice et des juges. Un ministère de la justice rebaptisé ministère de l'injustice, des juges qualifiés de militants qui poursuivraient des buts politiques de persécution, la charge est rude et on voit très bien pourquoi Donald Trump essaye par tous les moyens de décrédibiliser la justice de son pays.
C'est un jour historique pour l'Amérique.
Pour la première fois, un ancien président américain est condamné pour comportement criminel.
L'ancien président Donald Trump reconnu coupable de 34 chefs d'accusation.
Coup de tonnerre à Washington. La justice fédérale a jugé illégale une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump.
This is a huge setback for Trump and his administration.
Motif, seul le Congrès a le pouvoir de taxer.
Dans le logiciel de Donald Trump, la justice qui fait respecter les droits et la Constitution américaine, c'est un problème. Un problème pour lui, qui a été condamné et qui est inculpé dans plusieurs affaires. Un problème pour déployer sa politique aussi. Il a promis d'être un leader fort qui décide, qui va appliquer des solutions radicales demandées par son électorat. Alors, les contre-pouvoirs sont un problème et les attaques contre l'état de droit se multiplient. Contre la justice, contre la presse, contre des droits et libertés fondamentales de ceux que Donald Trump considère comme ses ennemis politiques. Chez nous, en Europe de l'Ouest, on n'en est pas là. Mais l'inquiétude pour l'état de droit n'en est pas moins réelle. Déjà, quand notre État sous-investit, voire désinvestit dans la justice.
En réalité, nous sommes inquiets pour l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? C'est avant tout des juges qui sont capables de rendre une justice de qualité, de rendre des décisions de qualité et dans un délai raisonnable et en plus dans des conditions de travail normales.
Quand aussi, on prend des mesures d'exception pour le terrorisme, pour le Covid par exemple, ou volontairement, on outrepasse les balises de l'état de droit.
Chaque remise en cause de l'état de droit, aussi légitime soit-elle à un moment donné, ne se traduit jamais, une fois que la menace a disparu, à un retour à la situation précédente.
Et puis, de nombreux spécialistes du droit se sont aussi émus récemment de la prise de position de Bart De Wever, notre Premier ministre, qui, avec d'autres premiers ministres européens, avait dénoncé dans une lettre le carcan que constituerait les décisions de la Cour européenne des droits humains en matière en particulier de migration. Avec ce rappel du côté des juristes.
Les droits humains ne vont pas être modelés par les politiques du jour, c'est censé être une protection constante.
L'état de droit garantit donc nos libertés. L'état de droit garantit donc nos libertés.
Bonjour Céline Romainville.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Les Clés. Vous êtes professeure de droit constitutionnel à l'UC Louvain, co-directrice du Centre de recherche sur l'État et la Constitution. Alors je propose de commencer avec vous par un petit l'état de droit pour les nuls, en quelque sorte. Peut-être pouvez-vous commencer par nous expliquer, nous réexpliquer ce qu'on entend en fait par ce concept d'état de droit.
Oui, ça me paraît effectivement une bonne idée pour bien appréhender le débat qui se pose aujourd'hui. Donc l'état de droit, en fait, c'est un principe assez ancien qui a été forgé dans toute une série d'ordres juridiques dont l'objectif est de prévenir l'arbitraire du pouvoir, de garantir une certaine sécurité et la liberté individuelle et la liberté collective. Et en fait, c'est assez simple. Dans un état de droit, tous les pouvoirs, le pouvoir législatif qui fait les lois, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, se soumettent au droit, à la loi, à la Constitution, c'est-à-dire qu'ils n'agissent que sur la base d'une autorisation légale ou constitutionnelle, que dans l'exercice de leur pouvoir, ils respectent les limites qui sont posées par le cadre légal et les conditions posées pour l'adoption des décisions. Voilà, ça c'est vraiment le cœur, et donc ça se traduit par quatre éléments. Premièrement, le respect du cadre légal, des limites des compétences de tout un chacun, donc principe de légalité, respect de la Constitution. Deuxièmement, des contrôles juridictionnels, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a des juges qui doivent pouvoir vérifier si les différents pouvoirs ont bien respecté le cadre légal. Troisièmement, le respect de la séparation des pouvoirs. Pour que ces contrôles juridictionnels soient effectifs, il faut que les pouvoirs soient indépendants les uns des autres. Et quatrièmement, le respect d'un certain nombre de droits fondamentaux.
Donc ça, ce sont les conditions de l'état de droit, ce sont les raisons pour lesquelles on a jugé dans des pays comme les nôtres, à un moment donné, qu'on devait installer cet état de droit. Nul ne peut ignorer la loi, nul ne peut s'en abstraire, y compris les pouvoirs, et y compris, c'est peut-être important de s'arrêter deux secondes là-dessus, le pouvoir judiciaire lui-même, qui lui-même est soumis à ce contrôle.
Effectivement, vous avez tout à fait raison. Donc, le principe de l'état de droit ne s'adresse qu'aux autorités publiques, il ne concerne pas les citoyens, et il requiert des autorités publiques qu'ils respectent le droit en vigueur. Donc, c'est-à-dire que le pouvoir législatif doit respecter les normes au-dessus de la loi. Le pouvoir exécutif doit respecter la Constitution ainsi que les lois. Et ce sont dans les lois qu'on détermine les éléments essentiels d'une politique publique. Et l'exécutif ne peut pas faire les lois lui-même. Le gouvernement ne peut pas décider de la loi et de respecter la loi. Et le pouvoir judiciaire lui-même, bien sûr, est tenu de respecter les lois faites par le législateur, la Constitution et les dispositions supralégislatives.
Alors, ce qui peut être peut-être un peu compliqué à comprendre, c'est quand ça s'applique au gouvernement, puisqu'on sait que le gouvernement, il peut proposer des lois qui vont être en général validées par une majorité politique au Parlement, et que donc, le gouvernement pourrait se dire il peut faire ce qu'il veut, lui, puisqu'il peut même, à un moment donné, faire modifier les lois. Or, il est lui-même soumis à la loi, et aussi soumis à une série de normes supérieures, des conventions, par exemple, que notre pays a signées par le passé. Ça veut dire que le gouvernement, même s'il peut agir à un moment donné par le biais du Parlement pour faire avancer la législation, il est lui-même soumis à la loi.
Oui, alors là, vous pointez très bien le paradoxe, quelque part, de l'état de droit. C'est-à-dire qu'un état de droit, c'est un état dans lequel tous les pouvoirs respectent le droit produit par cet état. Donc, bien sûr, comme vous l'avez dit, si, à un moment donné, l'état du droit ne correspond plus aux aspirations politiques et s'il y a une majorité pour changer certaines normes, eh bien, voilà, tout simplement, on va modifier la loi, moyennant le respect de la procédure législative, ce qui permettra après au gouvernement d'agir de telle ou telle sorte, en fonction des préférences politiques qui sont dégagées. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des progrès considérables de l'état de droit qui ont été vers la consécration aussi d'un certain nombre de règles dans la Constitution, dans un premier temps, au-dessus de la loi, et puis ensuite dans des conventions internationales et européennes, quand il est apparu clair, après la Seconde Guerre mondiale en particulier, qu'il fallait établir, organiser un filet de sécurité au-delà de l'État. Mais ce filet de sécurité, il est vraiment minimal et il concerne vraiment une poignée de règles très très fondamentales qui finalement simplement posent un cadre, mais un cadre très très large à l'action du législateur et de l'exécutif.
Prenons quelques exemples concrets pour bien illustrer tout ça. Si la police, par exemple, arrête une personne de manière injustifiée, sans respecter ses droits, eh bien, dans un contexte d'état de droit, la justice peut annuler la procédure. Si un bourgmestre interdit un rassemblement dans sa ville, eh bien cette décision elle peut être contestée devant un tribunal administratif. Et même le pouvoir législatif, donc les parlementaires, lorsqu'ils font les lois, doivent tenir compte également de l'état de droit. S'ils votent une loi contraire à la Constitution ou bien contraire à des droits fondamentaux que la Belgique s'est engagée à respecter, cette loi peut être invalidée, à charge pour les parlementaires de revoir leur copie. Ceci dit, il faut rappeler aussi qu'une constitution, ça peut se changer quand même. Donc, les balises fixées par l'état de droit, elles peuvent bouger, évoluer, à condition que cela se fasse selon des procédures bien définies, des procédures plus exigeantes que pour adopter une simple loi.
Bien sûr, on peut réviser la Constitution moyennant des majorités surqualifiées, puisque comme il s'agit de règles très fondamentales, on ne peut pas y toucher simplement avec une majorité d'un moment, donc le droit à la vie privée, par exemple. Si on veut en modifier les conditions ou la portée, il faut s'assurer qu'on est vraiment tout à fait sûr, bien réfléchir, donc avoir une majorité très, très, très importante. Et pour ce qui concerne même la Convention européenne des droits de l'homme, il y a des processus aussi qui peuvent amener les États à proposer des nouvelles interprétations, à ajouter dans le préambule. Donc, ce n'est pas non plus une norme figée dans le marbre. Mais j'ajouterais aussi que, et ça, c'est important de rappeler ce point, la Convention européenne des droits de l'homme et la protection par la Cour européenne des droits de l'homme, l'esprit, c'est vraiment un standard minimal, un filet de sécurité. Ça n'est pas quelque chose, le droit de la Convention européenne des droits de l'homme ne représente pas un obstacle à la conduite, par exemple, d'une politique migratoire plus ferme, qui va vers plus de sécurité. Simplement, c'est un droit qui impose certains raisonnements lorsqu'on adopte la loi et le respect de certaines balises très minimales.
Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça, en quelque sorte? Pourquoi est-ce qu'on a avancé vers cet état de droit? Parce qu'on pourrait se dire, dans la logique d'une majorité, de l'expression de la volonté du peuple, de la souveraineté populaire, ça peut paraître encombrant à un moment donné d'avoir des lois, mais d'avoir en plus une constitution qui est beaucoup plus difficile à changer, et d'avoir en plus encore au-dessus de la constitution des balises minimales, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, qui limite encore un peu aussi l'action des gouvernements. Pourquoi est-ce qu'on s'est dit à un moment donné que c'était intéressant de se fixer ces règles qui nous empêchent de faire tout ce qu'on veut dans les démocraties?
Alors, on peut répondre à cette question en deux temps. Pour ce qui concerne les constitutions, le moment où elles émergent, elles deviennent des normes juridiques, donc le moment des révolutions populaires, l'avènement de l'idée de constitution est tout à fait consubstantiel à l'idée de démocratie comme souveraineté populaire. Si on croit dans la souveraineté du peuple, il faut à un moment donné que les principes établis par le peuple, eh bien, ils puissent être certains de ces principes par lesquels il est garanti que le peuple puisse continuer à s'exprimer, que ces principes soient mis à l'abri de majorités changeantes. Sinon, le risque, c'est qu'à un moment donné, très concrètement, le roi, en France, revienne et dise « Ah ben non, c'est moi le peuple, donc les représentants, là, on ne s'en occupe plus. » Et donc, l'idée, la manière qui a été trouvée de garantir la souveraineté populaire, ça a été de fixer dans une constitution, hors d'atteinte en particulier du pouvoir exécutif, un certain nombre de principes qui seraient respectés.
Et là, on peut citer par exemple quelque chose comme la liberté de la presse ou la liberté d'association, de constituer des partis politiques.
Exactement.
Tout ça, ce sont des conditions de l'exercice d'une démocratie libre où chacun peut, à un moment donné, s'exprimer. Ça, c'était important de le garantir dans une constitution pour que la démocratie puisse vivre telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Tout à fait. Et déjà, lors de la Révolution américaine, la Révolution française, la Révolution belge, on a cette conscience que si on veut aller vers un régime qui sera d'ailleurs de plus en plus démocratique, il faut pas simplement qu'une majorité puisse s'exprimer, mais il faut des garanties pour la minorité et des droits fondamentaux et des procédures sans lesquelles le peuple ne peut pas s'exprimer. Hein, il faut un droit de vote, des élections libres, régulières, il faut une liberté de la presse pour que tout le monde soit informé des différentes options politiques, puisse exercer aussi une surveillance de ses représentants. Toutes ces idées-là, elles sont en fait très anciennes et consubstantielles à l'organisation de démocratie libérale à la fin du 18e et au 19e siècle. Ça, c'est une première vague, on va dire, où on va donc mettre dans une constitution, dans un instrument juridique au-dessus de la loi, un certain nombre de principes. Mais il faut vraiment insister, c'est des principes sans lesquels on ne peut pas avoir de démocratie. Dans lesquels, parce que, par exemple, pour prendre le peuple, il n'existe pas en soi. Il est très difficile de dire aujourd'hui le peuple belge veut ceci, cela. Il ne peut que donner son avis par des procédures. Lorsque des procédures sont organisées et la Constitution, elle est la garante que ces procédures sont bien respectées et c'est ce qui permet de, finalement de faire parler le peuple. C'est pour ça d'ailleurs que tous les appels du type « j'incarne le peuple » sont toujours très dangereux parce que il y a des procédures qui font parler le peuple et c'est ces procédures-là qui sont légitimes en démocratie. Et dans un deuxième temps, après les terribles errements des parlements nationaux et le non-respect aussi des régimes constitutionnels et la faillite totale de nos démocraties dans l'entre-deux-guerres et dans la Seconde Guerre mondiale, eh bien on s'est dit, bon, au-delà de l'État, au-delà de la Constitution, il va falloir aussi prévoir un filet de sécurité au-delà, dans une convention, la Convention européenne des droits de l'homme, voire dans d'autres instruments, une convention qui sera contrôlée par une cour, la Cour européenne des droits de l'homme, qui garantira le respect par tous les États, mais j'insiste, d'un socle minimal qu'il est bien précisé dans la convention, qu'il appartient bien d'abord aux autorités nationales de consacrer. Et dernier point là-dessus, la Convention européenne des droits de l'homme, la compétence de la Cour, elles ne sont pas arrivées comme ça, on n'a pas forcé les autorités belges à accepter. Il y a eu un processus, les États et les pouvoirs démocratiques et le Parlement ont donné leur consentement à cette convention, ils ont participé à sa rédaction. Donc ces instruments internationaux européens, ils ont une légitimité démocratique, on les a acceptés à un moment donné, le peuple a donné son assentiment et voilà, c'est pour ça qu'ils s'appliquent aussi.
Bon, alors si on en vient maintenant à la situation aujourd'hui, on a bien compris, je pense avec vous, ce que c'était l'état de droit, pourquoi aujourd'hui dans nos démocraties, eh bien, on a cet enjeu d'avoir un état de droit sur lequel s'appuie la démocratie. Est-ce que vous êtes inquiète quand vous voyez peut-être tout d'abord en particulier ce qui se passe aux États-Unis qu'on a évoqué dans l'introduction? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un vrai risque que cet état de droit qui a des fragilités puisse à un moment donné se fissurer, voire s'effondrer?
Alors oui, je suis vraiment, vraiment inquiète. Et cette année, on a pu voir avec nos étudiants, nos équipes de recherche, analyser toute une série de dérives. Notamment, si on peut épingler un seul exemple, ce fameux tweet du président Donald Trump où il dit, en substance, celui qui travaille à sauver sa nation ne peut pas être considéré comme étant dans l'illégalité, pour quelque motif que ce soit. Là, on est vraiment tout à fait en dehors des clous. On revient dans une idée où, en réalité, ce serait possible d'incarner la nation par un processus un peu magique, comme si l'élection à elle seule, l'élection par ailleurs, qui n'est pas forcément, aux États-Unis en particulier, le reflet de l'opinion de tout le peuple, il ne peut pas dire qu'il incarne tout le peuple américain, mais comme si l'élection permettait de sortir des formes, des procédures, des cadres, de violer les droits fondamentaux et d'agir sans aucun des contre-pouvoirs. Là, on bascule vraiment dans un régime qui n'est plus démocratique, déjà parce qu'il ne va plus respecter les procédures élémentaires de l'état de droit. Alors ça, c'est quelque chose, oui, qui est très inquiétant. Et en particulier, ce qui est inquiétant aussi derrière, c'est cette espèce de mépris des formes, des procédures, comme si toute forme, toute procédure, tout contre-pouvoir était une
entrave,
une entrave à l'action, une lubie de juriste, de faculté de droit, un peu isolée comme ça, coupée du monde réel, parce qu'il y a aussi cette idée du monde réel versus l'abstraction des juristes. Ça me paraît extrêmement dangereux. Les juristes au 19e siècle, mais depuis toujours, ont bien insisté sur le fait que la procédure, les formes, la procédure est la sœur jumelle de la liberté. Sans le respect des procédures démocratiques, sans le respect d'un certain nombre de formes et sans aussi le fait que ces formes, ces procédures sont contrôlées par des contre-pouvoirs, il n'y a pas de liberté et quand il n'y a plus de liberté, à un moment donné, il n'y a plus de démocratie.
Donc. Ce sont ces procédures qui garantissent les libertés, le fait aussi que des juges puissent exercer un contrôle aussi sur ces procédures, sur le respect. Alors là, on parle des États-Unis, mais on l'a dit, il y a aussi des questions qui se posent en Europe, qui peuvent se poser chez nous. Et je propose qu'on prenne peut-être un cas particulier en Belgique qui montre que l'état de droit, chez nous aussi, il est à certains moments questionné. On va voir ça avec Sarah Pousset.
Dans plusieurs dossiers, les autorités belges ont sciemment décidé de ne pas respecter des décisions de justice. Et le cas le plus emblématique concerne les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Selon la loi sur l'accueil de 2007, notre État doit fournir le logement, le couvert, mais aussi l'accès à des soins de santé aux personnes qui attendent que leur demande d'asile soit traitée. Pourtant, chaque mois, 3000 demandeurs dorment dans la rue. C'est une situation qui s'aggrave depuis l'automne 2021. Des avocats avaient alors entamé des procédures individuelles pour défendre chaque personne sans hébergement. C'est le cas de l'avocate Hélène Crocart.
Dans un premier temps, Fait d'asile respectait les ordonnances du tribunal, y donnait suite et donnait une place d'hébergement. Pour l'instant, on constate que Fait d'asile reste en défaut d'exécuter les ordonnances, donc les jugements.
L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile devrait aussi verser des astreintes aux personnes laissées dans la rue. Mais là aussi, les décisions de justice ne sont pas respectées. Au total, Fait d'asile a été condamné à plus de 10 000 reprises, et notamment par la Cour européenne des droits de l'homme. Le coup de grâce à l'état de droit a finalement été donné le 29 août 2023. Dans un communiqué, la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Nicole Demore, annonce le non-respect systématique de cette loi sur l'accueil.
J'ai pris la décision en effet de réserver toutes les places disponibles chez Fait d'asile pour ces familles et ces enfants. Et cela signifie que des hommes isolés ne seront pas intégrés dans le réseau de Fait d'asile pour la période à venir.
Quelques jours après cette annonce, le Conseil d'État suspend l'exécution de cette mesure au motif qu'elle viole plusieurs articles de la loi sur l'accueil. Mais la secrétaire d'État persiste. Elle ne respectera pas la décision du Conseil d'État car elle n'en a pas les moyens. Ce que contestent d'ailleurs les associations de terrain venues avec plusieurs propositions pour endiguer cette crise de l'accueil. 3 ans après, les rues de Bruxelles sont encore le seul recours de nombreux demandeurs d'asile. Et la justice, elle, a décidé de sévir en passant aux saisies. 400 000 euros de biens appartenant à Fait d'asile, mais aussi des électroménagers du cabinet de mort ou un buffet et un canapé du cabinet de Croc. En février 2024, ce sont même près de 3 millions d'euros qui ont été récupérés sur le compte de l'agence fédérale au profit d'ONG qui aident ces demandeurs d'asile laissés dans la rue par le gouvernement fédéral.
Voilà, c'est une belle illustration de l'état de droit. On a des juges qui exercent leur contrôle et qui peuvent même aller jusqu'à des saisies des biens de l'État, aller au cabinet d'une ministre saisir des biens. Sauf qu'il y a quand même un élément dans ce qu'on vient d'entendre là, Céline Romainville, c'est que on voit que si l'État belge, ici, décide de ne pas plier devant cette action de la justice, à un moment donné, la justice elle-même, elle est assez limitée pour faire appliquer cette règle, qui est pourtant une règle à laquelle souscrit notre pays au niveau international. Est-ce que ça veut dire, ça, aujourd'hui, que l'État de droit, il est fragilisé à partir du moment où un gouvernement peut se dire « oui, ben, moi je l'applique quand ça m'arrange » ?
Alors oui, je pense que là, c'est un cas malheureusement très emblématique de ce qui peut se passer, de cette espèce d'érosion du principe d'état de droit, et où aussi, de petite lâcheté en petite lâcheté, on en vient à toucher à un élément très important de ce principe, qui est tout simplement le respect par l'exécutif des décisions de justice. Et je pense que ce qui est mis en lumière dans ce dossier aussi, c'est que l'état de droit, c'est un engagement des différentes autorités. Comme vous venez de dire, et c'est tout à fait juste, le pouvoir judiciaire, ça fait partie de... Il se définit comme ça, il n'a pas les moyens d'imposer ses décisions par la force. C'est le pouvoir exécutif qui a les moyens de police, etc. Et là, on voit qu'on est effectivement confronté à une difficulté lorsque un des pouvoirs ne joue plus le jeu d'un des principes qui est vraiment au cœur de l'état de droit, qui est le respect par le pouvoir exécutif des décisions de justice qu'il doit exécuter. Tout est dans le mot d'ailleurs, exécution des décisions de justice. Alors ça ne veut pas dire que sur le fond, on ne puisse pas avoir un débat sur l'accueil des personnes migrantes. Hein. Mais si ce débat doit avoir lieu, alors il faut remettre la loi sur l'accueil, sur le métier, ouvrir une grande discussion démocratique alors qui tienne compte des balises minimales dont on a parlé juste avant, mais on peut réouvrir le débat. Mais en tout cas, ce que le pouvoir exécutif ne peut pas faire dans un état de droit, c'est simplement nier, s'asseoir sur des décisions de justice en revendiquant le fait qu'il ne les exécutera pas. Ça, c'est vraiment une violation flagrante du noyau dur de l'état de droit.
Et là, quelque part, si on veut faire le lien avec ce qui a été dit dans notre épisode précédent avec Vincent de Corbitaire, on se dit que c'est sans doute pas tout à fait un hasard si ça intervient sur un enjeu comme celui de la migration, puisque quand on regarde pourquoi le succès de partis populistes, de droite radicale ou d'extrême droite, c'est souvent parce qu'ils vont rencontrer des craintes sur la question de la migration. Et c'est souvent aussi dans ces partis-là qu'on a l'idée qu'il faut un pouvoir plus fort, plus efficace, qui ne doit pas trop toujours s'encombrer des contre-pouvoirs. Or ici, justement, on a un élément qui croise les deux, à la fois un État qui se sent quelque part légitime de ne pas respecter certaines règles parce que c'est sur la migration et qu'on sent bien que dans la population, il y a pas mal de gens qui ne s'émeuvent pas tellement, en fait, du fait que des demandeurs d'asile dorment en rue.
Oui, donc je pense que c'est pas anodin, effectivement, que les reculs de l'État de droit ou les demandes de recul, si on regarde aussi la lettre rédigée par le gouvernement belge, enfin en tout cas que le gouvernement belge a signé, se produit sur la question migratoire. Mais là, il faut être très clair, je pense. C'est que beaucoup de choses qui sont reprochées, imputées, notamment à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière migratoire, ou à un encadrement trop lourd de la question de la migration par une série de lois, sont des reproches qui ne sont pas étayés par des faits. Si on reprend cette fameuse lettre que le gouvernement belge, avec 8 autres gouvernements, a adressée à la Cour européenne des droits de l'homme, dans cette lettre, ce qu'il y a quand même de frappant, c'est que tout à la fois, ils dénoncent une jurisprudence qui les empêcherait de mener une politique migratoire plus ferme vers plus de sécurité, sans citer un seul arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Et moi, je suis toujours en attente que l'on me démontre que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, telle qu'elle est aujourd'hui, constitue un obstacle à une politique migratoire qui pencherait vers davantage de sécurité. Et deuxième point, il faut bien voir que les balises qui sont mises, c'est quand même assez large, hein. Donc si l'État, par exemple, vient avec des bons arguments pour dire qu'il y a d'autres éléments, c'est accepté. Il y a juste quelques éléments intangibles, comme l'interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants. Mais là, effectivement, c'est la dignité humaine. Et ça, c'est une balise que l'on a décidée collectivement après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, qu'on ne reviendrait pas là-dessus.
Oui, donc ça c'est important à rappeler, en lien, on le rappelle, avec cette lettre co-signée par Bardo Weaver et d'autres premiers et premières ministres européens sur l'enjeu de la migration et ce carcan qu'ils estimaient avoir de la part de la Cour européenne des droits de l'homme. Un dernier point que je voudrais qu'on évoque avec vous, Céline Romainville, ce sont ces cas, on en a parlé dans l'introduction, où on va temporairement mordre sur certaines libertés pour lutter contre le terrorisme, par exemple, ou pour lutter contre le Covid. Est-ce que vous voyez dans ces cas-là, et dans le fait qu'on ne revient pas toujours forcément complètement en arrière une fois la menace passée, est-ce que vous voyez là des entailles problématiques à l'état de droit ?
Alors c'est assez clair, par exemple pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, c'est très clair qu'on a appris à adopter une série de mesures qui sont des mesures exceptionnelles par rapport aux principes en vigueur, par rapport aux droits et libertés, qui impliquent des atteintes exceptionnellement importantes à ces droits et libertés au nom de davantage de sécurité. Et il faut constater qu'on n'est pas revenu sur ces mesures, que ces mesures se sont intégrées dans le droit commun, le droit pénal commun, le droit de la procédure, et que ces mesures maintenant s'appliquent à d'autres champs que la question du terrorisme. Donc là, effectivement, il y a un enjeu, c'est le rapport du droit à l'exception. Alors normalement, la question est réglée par la Constitution belge qui n'admet pas de suspension des droits fondamentaux, pas de dérogation. Donc on peut simplement restreindre, mais on ne peut pas prendre prétexte de temps exceptionnel pour suspendre, mettre entre parenthèses. Mais en réalité, ça ne s'avère pas être une protection très efficace, parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a des situations exceptionnelles, on va prendre des mesures de restriction qui parfois ressemblent très fort à des dérogations, sans qu'elles ne soient finalement qualifiées clairement comme telles, ce qui favorise encore davantage le fait qu'elles s'inscrivent ensuite et qu'elles se perpétuent et qu'elles s'inscrivent tout à fait dans le droit commun. On a eu ça très clairement sur la question du terrorisme. La Belgique n'est pas le seul État. En France, par exemple, l'état d'urgence se perpétue quasi de manière permanente. Et alors là-dessus, un point qui est important aussi à mentionner, c'est que tout ça se passe, ces régimes d'exception quelque part, qui disent leur nom ou qui ne disent pas leur nom, s'intègrent dans le droit sans qu'il soit toujours démontré que moins de liberté égale plus de sécurité. Ce point-là, il reste pas démontré et dans certains cas, c'est même plutôt l'inverse. Donc, et même de manière générale, rien ne prouve que si on diminue le niveau de liberté, on va aller vers plus de sécurité. On a plutôt des indices de l'inverse.
Et qu'est-ce que vous répondez alors au citoyen qui peut se demander en entendant tout ça si ça le concerne vraiment lui, parce que ce sont des mesures qu'on va prendre plutôt qui vont viser le terrorisme, l'islamisme radical ou peut-être les migrants. Mais il y a plein de citoyens qui peuvent se dire « moi, ça ne me concerne pas, donc ça ne m'inquiète pas ».
Alors, c'est le problème, c'est toujours la pente glissante. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a ouvert des brèches dans certains principes, que ce soit l'interdiction de la torture, qui était remise en question de manière implicite par, enfin, pas si implicite que ça, d'ailleurs, par la lettre qui a été signée par le gouvernement belge, ou que ce soit d'autres principes de procédures pénales fondamentaux dans le traitement des personnes suspectées de terrorisme, eh bien, ce qu'on peut répondre à ce citoyen-là, c'est que le problème, c'est la pente glissante. L'érosion de certains principes concerne d'abord certaines catégories de la population, mais ce que l'on a malheureusement observé dans beaucoup de régimes qui dérivent vers l'autoritarisme ou de plus en plus populistes ou d'extrême droite, c'est qu'à un moment donné, ces mesures commencent à concerner tout le monde. Donc à la fin, quand on accepte des entorses, des violations, des dérogations, des restrictions de grande ampleur aux droits fondamentaux d'une catégorie, ben, le mouvement est enclenché et à la fin touchera tout le monde.
Un rappel utile, très certainement, à l'heure où l'état de droit, on l'a compris, est sous pression, parfois de manière très visible, parfois aussi de manière plus insidieuse. C'était Céline Romainville, donc, professeure de droit constitutionnel à l'UC Louvain. À la réalisation sonore de cet épisode, il y avait Guillaume de Smet, à la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Dans notre prochain épisode de cette série consacrée à la démocratie, on va se pencher plus spécifiquement sur l'enjeu de la démocratie sociale et ce qu'elle devient en particulier chez nous. Rendez-vous donc pour notre épisode 3. Et si vous souhaitez partager cette série autour de vous, n'hésitez pas bien sûr pour nous écrire une adresse, lesclés@rtbf.be.